Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. C'est un événement au protocole millimétré, ultra médiatisé et savamment opaque. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'ouvre demain dimanche à Pékin, en présence de plus de 2000 délégués venus de tout le pays et représentant près de 96 millions de membres du parti. Au pouvoir depuis 2012, le président Xi Jinping, 69 ans, devrait, sauf coup de théâtre, se voir confier un troisième mandat de secrétaire général du PC, avant d'obtenir en mars prochain un troisième mandat de président, du jamais vu depuis Mao. Il faut dire qu'en 2018, Xi Jinping a fait supprimer dans la Constitution la limite des deux mandats. Mais le sacre annoncé risque d'être assombri par un contexte délicat pour le pouvoir chinois, entre une croissance économique en berne, une politique zéro Covid que la population et les milieux d'affaires commencent à contester, des tensions toujours croissantes avec les États-Unis, notamment sur la question de Taïwan, sans compter les répercussions de la guerre en Ukraine. Alors que faut-il attendre de ce 20e congrès, qualifié par le président chinois de très important pour les 5 ans à venir et même au-delà? Quels en sont les enjeux intérieurs et à l'international? On en débat avec nos invités.
Géopolitique.
Emmanuel Linco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS. Jean-François Huchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de l'Asie et de la Chine en particulier, et président de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Marc Julienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors ma première question, est-ce que ce congrès du Parti communiste chinois peut réserver des surprises ou est-ce que tout a été préparé en amont pour montrer une unité sans faille autour de Xi Jinping? Emmanuel Linco.
Ah, une surprise peut toujours arriver, surtout dans un régime dictatorial, hein, c'est-à-dire des révolutions de palais. C'est tout à fait évident, y compris Vladimir Poutine. Hein, à tout moment, une situation peut basculer. Mais Xi Jinping, depuis ces dernières années, s'est ingénié évidemment à purger le système, y compris l'armée populaire de libération, si bien qu'on ne voit pas au sein même du Politburo ou même au sein de l'armée, des contre-pouvoirs qui lui feraient de l'ombre. En tout cas, il n'y a plus de pouvoir représenté par les intellectuels. Donc, a priori, le terrain est suffisamment balisé pour qu'effectivement, il soit reconduit dans ses fonctions.
Il n'y a aucune chance, Marc Julienne, pour que le successeur de Xi Jinping figure, par exemple, dans le comité permanent du parti. Le président chinois veille scrupuleusement à écarter tout rival, d'autant plus qu'il peut désormais rester au pouvoir presque aussi longtemps qu'il le souhaite.
Alors ça fait justement partie des surprises qui pourraient arriver. On ne sait pas comment sera constitué le comité permanent du bureau politique. Et donc ça, c'est ce que les observateurs de la Chine vont décortiquer, observer à l'issue du congrès pour voir en fait quels sont les fidèles de Xi Jinping. Et on verra justement si au sein du comité permanent, il y a des cadres dirigeants suffisamment jeunes pour ensuite prendre la relève de Xi Jinping. Ce serait risqué aussi de sa part, puisque ce serait aussi mettre en avant un dauphin et ce serait potentiellement le mettre en danger s'il y a de l'opposition à son sujet.
Jean-François Huchet, le cœur du pouvoir, c'est le comité permanent du parti. C'est là que se décide la ligne politique suivie par le Parti communiste chinois.
Oui, normalement, sur le papier, c'est effectivement le cœur du système politique chinois. Ceci étant dit, ces dernières années, on a vu un Xi Jinping qui a cherché à remettre en cause justement une sorte de paradigme que Deng Xiaoping avait institué à partir notamment au début des années 1980, où il y avait une prise de décision qui était pas démocratique, mais un peu plus collective en amont des décisions importantes à prendre pour la Chine. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce serait une trop longue histoire pour la détailler, mais c'est une centralisation extrêmement importante autour de sa personne. Il dirige véritablement des comités pratiquement dans tous les secteurs les plus importants du parti. Et donc aujourd'hui, on voit ce comité permanent avoir beaucoup moins de possibilités, en tous les cas, face aux décisions de Xi Jinping. Et ce qu'on voit de l'extérieur, ce sont des hommes qui aujourd'hui sont obligés de prendre des notes et d'en référer à Xi Jinping. Donc le style et la manière de gérer gérer effectivement tout le processus de décision a énormément changé ces 5 ou 6 dernières années. Quoi.
Mais c'est difficile, si je comprends bien, de savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur de cet organe qu'est le comité permanent du parti. Est-ce qu'il existe vraiment des dissensions au sein du pouvoir chinois, comme certains experts le murmurent, Emmanuel Linco?
Assurément. Et depuis la création même du Parti communiste chinois en juillet 1921, il y a notamment 2 obédiences qui ont toujours été rivales, très schématiquement pour faire simple, les pro-russes et les anti-russes. Et de toute évidence, même si, encore une fois, comme vous l'avez souligné, c'est un parti opaque parce que léniniste dans ses modes de fonctionnement, eh bien, il y a des rivalités aujourd'hui entre les pro-russes et les anti-russes. Donc la question ukrainienne, de toute évidence, va s'inviter dans les débats.
On va revenir tout à l'heure sur la question ukrainienne. Marc Julienne, vous êtes d'accord, il existe des dissensions et les mêmes que celles évoquées par Emmanuel Linco?
Alors personnellement, j'ai du mal à les identifier. Avant, il y avait des factions qui étaient relativement identifiées, la Ligue de la Jeunesse communiste, les Princes Rouges, etc. Aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal à lire justement entre les lignes des communiqués très froids et factuels du Parti communiste. Mais par déduction, je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir de dissensions au sein du parti, étant donné les politiques menées par Xi Jinping depuis justement ces 5 dernières années, en fait depuis le début de son deuxième mandat à partir de 2017, quand on prend les dossiers du Xinjiang sur le plan intérieur ou aussi de Hong Kong, la répression à Hong Kong, la montée de la coercition très forte sur Taïwan, un changement de braquet diplomatique avec ce que l'on a appelé en 2020 la diplomatie du loup guerrier, voilà, un resserrement autoritaire très très dur intérieur et une diplomatie beaucoup plus musclée, beaucoup plus coercitive sur le plan extérieur. Je doute que tout le monde soit tout à fait aligné avec ces choix-là qui ont dégradé très fortement l'image de la Chine. Je n'ai pas mentionné aussi la dimension économique qui, je pense, est très importante et qui va être, on va sans doute en parler plus tard, déterminante pour les 5 prochaines années. La politique notamment de zéro Covid maintenue par Xi Jinping depuis 2020, depuis 2 ans et demi, a entravé l'économie et la croissance du PIB.
Alors justement, au congrès de 2017, Xi Jinping avait promis une nouvelle ère de socialisme à la chinoise et que son pays allait s'ouvrir encore davantage. L'ouverture, avait-il dit, amène le progrès, la fermeture nous ramène en arrière, la Chine ne va pas fermer ses portes. 5 ans après, le Covid est passé par là, la Chine s'est refermée. Mais pourquoi le président chinois a-t-il fait de la politique zéro Covid un dogme qui empêche le pays de reprendre une vie normale, Jean-François Huchet?
Alors, je pense qu'il y a eu à un certain moment donné un certain aveuglement de sa part. Et ça en dit long aussi sur les processus, encore une fois, de décision, c'est-à-dire sur on va dire les forces de rappel qui pouvaient exister avant pour infléchir telle ou telle décision avant, je dirais, 2017, où il y avait, encore une fois, par moment, en amont des décisions, quelque chose de plus collectif, avec par moment des critiques aussi hein, qui pouvaient apparaître, des forces de rappel qui pouvaient changer et faire en sorte que le pragmatisme soit beaucoup plus présent dans les décisions économiques. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est enfermé définitivement dans une stratégie, à la fois vis-à-vis de l'Occident, en disant il y a une supériorité du système chinois, il y a beaucoup moins de morts, c'est la supériorité du régime communiste, et qui, en fait, permet de démontrer, encore une fois, vis-à-vis de la population chinoise, cette supériorité du régime chinois. Et donc, Xi Jinping s'est enfermé dans une stratégie où il n'y a pas véritablement d'issue, et notamment avant cette tenue du congrès où il perdrait la face en fait par rapport à sa population et par rapport au reste du monde. Donc là, je crois que ça en dit assez long aussi hein, sur les processus de décision qui existent aujourd'hui en Chine.
Emmanuel Linco, on a vu des personnes refuser de quitter leur maison pour être placées de force en quarantaine. On a l'impression que la population commence à en avoir assez de vivre sous la menace permanente de la quarantaine, d'être classée à risque par des algorithmes. Est-ce que le président chinois s'accroche à cette politique zéro Covid pour des raisons sanitaires ou parce qu'elle lui permet aussi un incroyable contrôle de la population ?
Alors, plusieurs réponses, et je dirais presque toutes les réponses affirmatives et qui infirment ce que l'on peut imaginer sur Xi Jinping sont contenues justement dans votre questionnement, dans le sens où c'est assez paradoxal pour un certain nombre de Chinois. Xi Jinping passe pour être un grand humaniste parce qu'en fait, il met en avant justement l'humain, la protection de l'humain par rapport à des considérations économiques. Donc, quelque part, aussi curieux que cela puisse paraître, il passe pour quelqu'un qui protège la population, aux yeux d'une certaine partie de la population, bien sûr. Et puis, sinon, le sentiment qui prévaut pour avoir quotidiennement ou presque au téléphone des contacts chinois, c'est, il est vrai, une très grande lassitude. C'est véritablement la guerre des nerfs. Il y a une sorte aussi de servitude volontaire. Enfin, vous voyez, tout cela est mêlé et confus à la fois. Et de toute évidence, Xi Jinping, qui avait triomphé en septembre 2020 en disant que c'était le Parti communiste chinois qui avait mis à genoux la Covid-19, ben en réalité, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit non plus que sur sa décision d'un zéro Covid. Et pour une autre raison, parce que la majorité de la population à ce jour n'est pas encore vaccinée. Et pour une raison bien simple, c'est que les vaccins chinois sont inefficaces d'une manière générale et que pour des raisons hyper nationalistes, là encore, c'est vraiment l'idéologie qui est au pouvoir. La Chine est devenue véritablement une idéocratie, eh bien, on refuse l'importation du Pfizer, par exemple. Voyez, donc, il y a à la fois une défiance, une lassitude, et en même temps, on pourrait se dire que ça pourrait être encore pire.
Marc Julienne, les gens acceptent, sans rechigner, d'être photographiés, filmés, espionnés, jugés, punis ou récompensés pour tel ou tel acte. C'est ce qu'on appelle le système du crédit social. Est-ce que ce système assez orwellien rappelle les temps les plus sinistres de la révolution culturelle ? Est-ce que Xi Jinping, finalement, a fait encore mieux, entre guillemets, en matière de contrôle de la population que l'époque de la révolution culturelle ?
Alors, en termes de surveillance, il y a un système de surveillance qui est draconien, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, puisque ces nouvelles technologies dont dispose Xi Jinping sont inédites. Il faut peut-être séparer le système de crédit social, autour duquel il y a beaucoup de fantasmes, dans le sens où c'est encore un système qui est en développement, en test, et qui peut-être n'apportera pas les résultats escomptés. En revanche, je pense que la volonté politique, elle est là. La volonté politique que vous avez qualifiée d'orwellienne, je pense qu'elle est là, de volonté de tout contrôler, d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser massivement et mettre en cohérence des millions de données, je pense qu'elle est là. Et c'est l'une des préoccupations, d'ailleurs, pour les 5 années qui viennent, avec donc un troisième mandat pour Xi Jinping, puisque ce qu'on a vu depuis ces 10 dernières années, c'est un verrouillage du pouvoir, une concentration des pouvoirs, un renforcement du Parti communiste et un affaiblissement des structures de l'État. Et c'est aussi, justement, une montée en puissance de l'État policier, de l'État sécuritaire, et notamment à travers ces nouvelles technologies. Donc, avec 5 nouvelles années de règne et avec cette trajectoire politique qui est celle qu'il a initiée en 2012 et puis surtout en 2017, on peut tenter d'imaginer en fait jusqu'où il peut pousser ce système de surveillance sociale.
Alors, à propos du bilan économique de Xi Jinping, Jean-François Huchet, est-ce que vous diriez qu'il est mitigé après 2 mandats ? On en a parlé tout à l'heure. Selon le FMI, la croissance en Chine s'est considérablement affaiblie depuis 2022. Elle devrait être de 3,2% cette année. Ce serait le taux le plus bas en 40 ans, bien en dessous des 5,5% officiels. Est-ce que ça, c'est un échec pour le pouvoir chinois ?
Alors, je crois qu'il faut quand même
relativiser,
c'est-à-dire qu'on a de toutes les manières, on le sait maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, des évolutions structurelles au sein de l'économie chinoise, qu'elles soient démographiques, sur le vieillissement de la population, la baisse de la population active chez les plus jeunes, des difficultés effectivement à garder des taux de croissance de la productivité qui étaient naturellement extrêmement élevés. Quand vous passez quelqu'un du secteur agricole au secteur industriel, vous explosez sa productivité. Donc tout ça se ralentit de manière naturelle dans l'économie chinoise. Et je pense que peu importe le leader politique qui serait à la tête de la Chine, les chiffres de taux de croissance qu'on avait il y a encore une quinzaine d'années, à 8, 9, voire à 2 chiffres, sont définitivement terminés. Et c'est là, effectivement, peut-être qu'il y a très certainement des critiques à l'encontre de Xi Jinping, encore une fois, sur sa capacité pragmatique à s'adapter à un certain nombre de situations.
Mais est-ce que la politique zéro Covid est en majeure partie responsable de ce ralentissement de la croissance ?
En partie, oui, bien sûr. Ça a causé toute une série de troubles, d'obstacles à la fluidité de l'économie, que ce soit dans les transports, que ce soit aussi sur l'immobilier. Donc, il y a effectivement des critiques sur sur la gestion de l'économie.
Les critiques en interne.
Oui, bien sûr. On a vu ce qui s'est passé à Shanghai et on n'a pas eu les dessous de l'histoire, très certainement. Il est très difficile, comme vous le disiez, c'est un pouvoir extrêmement secret, mais on a bien vu les hésitations au démarrage de ce qui s'est passé à Shanghai au printemps dernier. Il y a eu des hésitations et très certainement, il y a eu des dissensions sur la manière de gérer le Covid à Shanghai, on le sait, entre les autorités locales et les autorités centrales.
Emmanuel Linco, il y a eu au cours de ces dernières années des scandales bancaires et immobiliers retentissants liés à la corruption, à la spéculation. Les prix de l'immobilier ont flambé. La classe moyenne a de plus en plus de mal à se loger. Dans la province du Henan, les autorités ont même été accusées de complicité. Il y a eu des manifestations, des appels à boycotter les paiements dus à des promoteurs en faillite. Est-ce que c'est nouveau, ça, le fait que la population se soit rebiffée contre ces scandales successifs?
Non, c'est aussi ancien que la Chine. Il y a toujours eu des révoltes. Alors, ce sont des révoltes sporadiques, mais il n'y a pas à la tête, justement, de ces révoltes, un homme politique qui pourrait, justement, s'installer et faire face au Parti communiste chinois. Donc, quelque part, ces révoltes sont aussitôt dissoutes, soit par un compromis, une négociation, soit parce que, de toute façon, elles n'ont pas véritablement d'emprise. Mais c'est, étant donné l'immensité du pays et sa masse démographique, c'est, je dirais, aussi naturel qu'il y ait autant de révoltes. Ce qui pose un problème, clairement, et ce, en dépit des déclarations de Xi Jinping, c'est une corruption endémique, mais sans avoir une vision culturaliste sur la Chine, je pense que c'est inhérent sinon à la culture chinoise, tout au moins au système politique chinois. Parce que c'est une dictature. C'est-à-dire que la définition stricte d'une dictature, c'est la confusion de tous les pouvoirs. Donc vous avez des relations de facto incestueuses entre le milieu bancaire, entre l'immobilier et le pouvoir. Et forcément, à un moment donné, quand vous voulez extirper et séparer justement les genres, ça devient pratiquement mission impossible. Donc Xi Jinping, quelque part, court après des moulins, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne changera pas pour autant l'état de la corruption qui est inhérente, encore une fois, au système.
Mais la campagne de lutte contre la corruption, elle est quand même un peu efficace et c'est réellement une campagne de lutte contre la corruption ou est-ce qu'elle sert de prétexte aussi à des purges, Marc Julien?
Les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une véritable dimension pragmatique depuis 2012 dans la campagne de lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'il y a un constat que la Chine était et est sans doute encore extrêmement corrompue au niveau de l'administration de l'État et du parti. Donc il y avait vraiment cette dimension pragmatique de lutter contre ce fléau. Et puis évidemment, il y a une dimension aussi tactique pour Xi Jinping de vouloir écarter des rivaux potentiels et placer à des postes stratégiques des fidèles à lui.
Est-ce que cette lutte contre la corruption, est-ce que c'est ça qui l'a rendu populaire?
Oui, ça a été une politique qui a été assez populaire dans l'opinion publique. Je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui il est populaire. C'est-à-dire que c'est très difficile, il n'y a pas, évidemment pas d'enquête d'opinion. Mais en tout cas, je crois, parce qu'on a pu le voir après 2012, que la campagne de lutte contre la corruption était relativement bien accueillie. Mais ça aussi, ça fait partie des politiques qui, à mon avis, créent une certaine dissension. Puisque lutter contre la corruption, c'est une chose. Mais après, avec quelle brutalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut aussi faire craindre un certain nombre de cadres dirigeants. Les gens, justement, de ne pas pouvoir faire des propositions pour le parti à un niveau local, provincial ou national, puisqu'aujourd'hui, la seule manière de progresser dans la hiérarchie du Parti communiste, c'est en fait d'être un bon petit soldat de Xi Jinping. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix pour être élu au comité central que d'être dans la ligne politique correcte qui est celle aujourd'hui de Xi Jinping. Il n'y a qu'une seule ligne politique en Chine, ce qui est quelque chose de, pas d'inédit, mais en tout cas de nouveau depuis ces 40 dernières années, puisqu'avant justement, ce qui avait été établi par Deng Xiaoping, c'était la direction collégiale du parti où certaines lignes politiques coexistent et il y a une sorte de rapport de force au plus haut niveau du parti et donc le comité permanent, les bureaux politiques vont justement arbitrer ces différents courants politiques.
Marc Julien, Jean-François Huchet, Emmanuel Linco, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des enjeux du 20e congrès du Parti communiste chinois.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Demain s'ouvre à Pékin le 20e congrès du Parti communiste chinois. Et sauf énorme surprise, le président Xi Jinping, au pouvoir depuis 2012, va se voir confier un troisième mandat de 5 ans à la tête de la deuxième puissance mondiale. Alors quels sont les enjeux intérieurs et à l'international de ce 20e congrès? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de la Chine, Emmanuel Linco, Jean-François Huchet et Marc Julienne. Depuis le début, le 24 février, de la guerre en Ukraine, la Chine s'est refusée à condamner la Russie. Mercredi encore, l'Assemblée générale de l'ONU a largement condamné les annexions illégales de territoires ukrainiens par la Russie. 143 pays ont voté pour la résolution, 5 ont voté contre et 35, dont la Chine, se sont abstenus. Qu'est-ce qui fait dire aux experts occidentaux que cette guerre embarrasse le président chinois, Marc Julienne?
Cette guerre embarrasse le président chinois sur plusieurs aspects, notamment parce que ça va à l'encontre de tous les principes fondamentaux de la politique étrangère de la Chine. Vladimir Poutine, quand il a conduit cette invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, a donc violé les frontières, donc la souveraineté territoriale d'un État reconnu membre des Nations Unies et donc reconnu y compris par la République populaire de Chine. Ça, c'est quelque chose qui est en principe, en théorie, inacceptable pour la Chine, puisque la Chine reconnaît l'Ukraine et donc a ce principe de souveraineté territoriale qui est absolument fondamental dans sa politique. Pourquoi est-ce que ce principe est fondamental? C'est parce que la Chine a justement elle-même des contentieux territoriaux, en tout cas des revendications contradictoires de territoriales. Par exemple, je pense au Xinjiang, au Tibet et évidemment à Taïwan. Et donc le fait qu'un État peut envahir un autre en ayant des velléités irrédentistes sur ce pays, comme la Russie avec le Donbass et avec l'Ukraine dans sa totalité, c'est quelque chose qui n'est normalement pas acceptable. Alors ça, c'est ce que je dis en décryptant les principes diplomatiques depuis Mao. Mais en réalité, du coup, la Chine ne s'est jamais prononcée là-dessus. Pourquoi? C'est parce que la Chine a aujourd'hui un partenariat stratégique extrêmement proche avec Vladimir Poutine. Elle a besoin de Vladimir Poutine sur la scène internationale pour sa stratégie internationale, qui est une stratégie d'opposition aux États-Unis en premier lieu, mais aussi au monde occidental, aux démocraties libérales de manière générale. Et donc, Vladimir Poutine et Xi Jinping sont obligés de se serrer les coudes dans ce contexte. Et c'est pour ça qu'on a vu mis en scène de ces derniers mois l'amitié sans limite, c'est la formule utilisée par Pékin, ou l'amitié solide comme le roc entre les deux pays. Même s'il ne faut pas être dupe, je pense, de ce discours-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui est mis en scène, mais en réalité, il y a certains points de dissension entre la Russie et la Chine. Alors, ils sont assez nombreux. Hein. Ça peut être la présence chinoise en Asie centrale, dans l'océan Arctique, voire la compétition entre les deux puissances en Afrique. Il y a toutes sortes de dossiers sur lesquels Chinois et Russes ne sont pas alignés. Mais donc, il faut absolument ne pas les mettre au grand jour, ces sujets de dissension, pour présenter ce partenariat stratégique extrêmement important. Le scénario extrême pour la Chine, qui pourrait peut-être faire vaciller justement cette neutralité de façade qu'adopte Pékin depuis le début de la guerre, ce serait que Vladimir Poutine soit véritablement en danger de mort politique, que le régime de Vladimir Poutine soit menacé, puisque là, ça créerait une incertitude pour la Chine, puisque les deux pays sont voisins, on partage quelques milliers de kilomètres de frontières, et donc, si Vladimir Poutine était amené à tomber, qui sait quel régime lui succéderait. Et ça, cette incertitude-là pour Pékin est inacceptable.
Emmanuel Linco, la Chine a signé avec l'Ukraine en 2013 un traité d'amitié, je ne sais pas si c'est l'appellation exacte, qui reconnaît la souveraineté ukrainienne. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal aujourd'hui de voir la Chine rester neutre, alors que ce principe de souveraineté, d'intangibilité des frontières reconnu par ce traité d'amitié est bafoué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie?
Je dirais que Xi Jinping, à sa manière, est un diplomate né, c'est-à-dire qu'il maintient constamment l'ambiguïté. Bon, vous soulignez effectivement l'existence de ce traité. On peut ajouter en amont, en 2008, durant la guerre brève qui a opposé la Fédération de Russie à la Géorgie, le fait que la Chine n'ait jamais reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, à la différence de son partenaire, précisément russe. Et puis, plus récemment encore, juste avant de se rendre à Samarkand, deuxième ville de l'Ouzbékistan, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Xi Jinping a condamné au Kazakhstan, là même où quelques années plus tôt, en 2013, il avait prononcé un discours fondateur pour le lancement des nouvelles routes de la soie, le fait qu'il fallait absolument que l'on respectât l'intégrité territoriale des États, à commencer par le Kazakhstan, lequel avait été, entre guillemets, visité par une force d'intervention de l'organisation du traité de sécurité collective, donc par Vladimir Poutine. C'était d'ailleurs rétrospectivement un banc d'essai sans doute pour Vladimir Poutine, qui a testé de cette manière-là les réactions molles de l'Occident, pour ensuite intervenir quelques semaines plus tard contre l'Ukraine. Donc deux poids, deux mesures, et en même temps, les 15 et 16 septembre, donc au moment de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui, je le rappelle, est la deuxième plus grande organisation du monde après l'ONU, 45% de la population mondiale à sa manière y est représentée, Xi Jinping s'est rangé au vu de Vladimir Poutine dans son appel de changer l'ordre mondial, donc de rejeter les principes même de l'ONU. C'est quand même assez intéressant. Donc il y a une volonté claire d'utiliser à sa manière la Russie. Ça peut être une opportunité d'ailleurs sur le plan économique, allez savoir. Hein,
Donc c'est une alliance de circonstances.
Alors attention d'ailleurs au poids des mots, ce n'est pas une alliance. Parce qu'une alliance vous oblige, une alliance vous contraint. C'est l'alliance et l'article 5 de l'OTAN. Ici, c'est un partenariat qui tend vers une alliance, en effet, peut-être, mais ça n'en est pas une encore. C'est si vrai que la Chine n'intervient pas militairement aux côtés de la Russie contre l'Ukraine. En revanche, il y aura très certainement des tractations entre Russes et Chinois, c'est-à-dire que les Chinois soutiennent verbalement, pour l'essentiel, dans un premier temps, la Russie, mais peut-être que ça ira beaucoup plus loin, et la Chine sera dès lors exposée à des sanctions américaines lourdes, c'est évident. Et donc, je n'imagine pas les Chinois ne faisant pas payer d'une manière ou d'une autre leur contribution à l'effort russe, c'est-à-dire, par exemple, par une annexion partielle de la Sibérie. C'est tout à fait possible. Alors, c'est de l'ordre de la spéculation pour le moment, mais de toute évidence, le grand perdant de cette guerre, c'est Poutine d'ores et déjà. Et ça veut dire que les configurations internationales et la configuration même de la Russie pourraient en être changées, peut-être au profit de la Chine.
Jean-François Huchet, est-ce que la neutralité de la Chine par rapport à la guerre en Ukraine peut s'expliquer aussi par la crainte des entreprises chinoises d'être la cible de sanctions occidentales si elles continuent à commercer avec la Russie ?
Oui, non seulement les Américains disposent d'une arme nucléaire sur le plan économique, et on l'a vu sur l'Iran, vis-à-vis des Européens. Enfin bref, ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Donc il y a cette crainte. Et d'ailleurs, nous voyons que derrière ce partenariat de circonstances, on a vu une très forte retenue hein, de la part des banques chinoises, des entreprises chinoises en matière de coopération, que ce soit une coopération financière, que ce soit des sur le plan des investissements ou voire même éventuellement sur la livraison, voyez, de pièces de rechange qui pourraient aujourd'hui manquer dans un certain nombre de secteurs en Russie. Donc on sent qu'il y a là une très grande prudence de la part des entreprises chinoises, très certainement aussi parce qu'elles répondent à une injonction du pouvoir central sur ces questions. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut aussi voir que la Chine a beaucoup à perdre aussi hein, sur les questions de tensions géopolitiques, des conséquences que ça peut avoir sur le prix des matières premières, sur la désorganisation de la chaîne des valeurs ajoutées et de l'approvisionnement. On le voit, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de créer tous ces problèmes. Et je dirais que l'évolution très récente de ce qu'on voit en Ukraine, on pourrait aussi avoir un autre scénario qui est que Poutine apparaisse comme le perdant, de ne pas avoir été capable de tenir les engagements qu'il a très certainement donnés à Xi Jinping au démarrage de cette guerre. D'ailleurs, avait-il tout dit aussi ? Ça, c'est une autre question. Mais si elle apparaît comme le grand perdant, je pense que la Chine va aussi recalculer son intérêt par rapport à cette situation géopolitique. Et peut tout à fait aussi sortir de cette crise d'une manière complètement différente de celle dans laquelle elle était rentrée au démarrage, c'est-à-dire par ce partenariat stratégique avec la Russie.
Ces derniers mois, sur la question de Taïwan, on a vu une cristallisation des tensions entre Pékin et Washington. Marc Julien, est-ce que selon vous, Xi Jinping est réellement déterminé à faire rentrer l'île démocratique dans le giron chinois, quitte à utiliser la force ?
Ah bah en tout cas, oui, c'est ce qu'il dit. Le grand projet qu'il a initié, c'est la grande renaissance de la nation chinoise, ce rêve chinois, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui devra être achevé à l'horizon 2049, qui sera le centenaire de la République populaire de Chine. Et dans ce rêve chinois, c'est l'unification de la nation et donc de Taïwan, qui est considéré comme faisant partie intégrante de la nation chinoise. Et donc Xi Jinping, probablement, alors la question c'est l'horizon, 2049 c'est la date butoir, mais... D'ici là, voilà, quel est l'horizon de temps pour Xi Jinping? Est-ce que lui souhaite être l'homme qui mènera justement cette conquête, qu'elle soit pacifique ou par la force? Le fait est qu'on peut imaginer, vu qu'il se présente un peu comme l'homme providentiel de la République populaire de Chine, après Mao, après Deng, voire même au-dessus de Deng Xiaoping, on peut imaginer qu'il souhaite être l'homme qui accomplira cette unification nationale.
Donc ça veut dire qu'il a envie d'inscrire son nom dans l'histoire avec un grand H, et pour cela, il est prêt à envahir Taïwan et par là même à un conflit armé avec les États-Unis.
Ça a toujours été clair dans le discours officiel chinois que l'option militaire a toujours été sur la table. Aujourd'hui, elle est probablement plus que jamais sur la table puisque le dialogue est totalement coupé avec les autorités à Taipei, et on voit aussi la montée de la coercition, ce qui fait que la population taïwanaise n'est pas aujourd'hui en mesure justement d'aller vers plus de coopération avec la République populaire de Chine. On l'a vu cet été après la visite de Nancy Pelosi, la République populaire de Chine a accédé à un nouveau palier de pression, de coercition à l'encontre de Taïwan avec des exercices navals, aériens et des tirs de missiles balistiques.
Donc c'était la réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants.
Mais après 4 jours d'exercices militaires, il y a aujourd'hui quotidiennement des exercices militaires aériens et navals en plein cœur du détroit Taïwan pour justement contester, remettre en question, voire carrément nier la ligne médiane de démarcation au milieu du détroit, ce qui était un statu quo jusqu'en 2020. Après, la question de l'horizon, il y a une sorte de consensus chez les analystes et les observateurs méticuleux des capacités militaires chinoises, qui est qu'entre 2027 et 2030, la Chine n'aura pas l'ensemble des capacités militaires nécessaires pour entreprendre cette opération extrêmement difficile. Taïwan est une île montagneuse de 23 millions d'habitants. Et ce sera une opération très complexe. La question qui se pose, c'est que l'Ukraine devrait peut-être nous apprendre cette leçon-là, que même si ce n'est pas rationnel, même si la Chine n'a pas toutes les capacités avant 2027-2030, est-ce qu'on peut quand même imaginer un scénario d'offensive contre Taïwan, ou en tout cas de monter des tensions très très fortes jusqu'à une crise qui puisse dégénérer? Je pense qu'il est quand même prudent de se poser la question pour ne pas être surpris.
Emmanuel Linco, on s'est demandé à un moment si Pékin n'allait pas profiter de la guerre en Ukraine qui focalise l'attention des Occidentaux pour mettre ses menaces à exécution par rapport à Taïwan. On a entendu l'inquiétude à Taipei. Est-ce que les Taïwanais ont les capacités militaires de résister à une invasion chinoise, confortés peut-être par ce qui se passe en Ukraine, à savoir le petit pousset ukrainien qui fait reculer l'ogre russe?
Pour dire les choses très abruptement, je pense que les Ukrainiens se sont sacrifiés pour les Taïwanais, pour le moment, dans le sens où l'invasion de Taïwan aurait été très certainement inéluctable. On peut supposer, les historiens du futur nous le diront, que la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine le 4 février à Pékin a permis aux deux hommes de se concerter justement sur l'ouverture probable à terme de 2 fronts contre l'Occident. Voire même un troisième qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, qui est associé tantôt à la Russie, tantôt à la Chine, c'est la Corée du Nord, hein, qui procède à X tirs de missiles depuis ces derniers jours. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer, même si à cette invasion, même si longtemps l'argument massu des néolibéraux, c'était de dire il y a 35 millions d'emplois qui dépendent sur le continent chinois des multinationales taïwanaises. Taïwan, c'est les 3/4 des microprocesseurs fabriqués dans le monde. Donc a priori, c'est impossible. Sauf qu'il faut toujours tenir compte, effectivement, de l'irrationalité des hommes. Quelque part, Poutine a été irrationnel dans l'évaluation du risque d'une invasion de l'Ukraine. Et en tout cas, l'invasion chinoise de Taïwan serait à tout point de vue catastrophique, parce que Taïwan a cette configuration géopolitique que n'avait pas et que n'a toujours pas l'Ukraine, même si l'Ukraine bénéficie d'une logistique massive des États-Unis et de l'Union européenne. Taïwan est lié aux États-Unis par le Taiwan Relations Act, qui est en vigueur depuis 1979. Et Joe Biden n'a n'a laissé aucun doute sur la question. Pour le coup, les Américains sont sortis de l'ambiguïté stratégique. Si la Chine attaque Taïwan, les Américains rappliquent, mais aussi leur allié japonais. Et donc, la guerre devient véritablement mondiale. Donc, je pense que les Chinois, assez échaudés précisément par le scénario du pire qui est en train de se produire pour les Russes en Ukraine, y réfléchissent évidemment à deux fois.
Mais quand Joe Biden déclare « les États-Unis défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise », qu'est-ce qu'il y a derrière ce « défendront » ? Est-ce que les familles américaines sont prêtes à
alors, ça, c'est
perdre la vie, aller mourir pour Taïwan ?
C'est encore
pour
difficile
Taïwan.
À dire. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'opinion américaine est chauffée à blanc. Qu'elle soit républicaine, démocrate ou rien du tout, l'ennemi désormais, c'est la Chine. C'est-à-dire que la Covid-19 et Donald Trump, de cette manière-là, a bien préparé le terrain. La Covid-19, c'est le Pearl Harbor des Américains du 21e siècle. Donc l'ennemi, c'est la Chine. Donc je ne serais pas surpris, effectivement, que s'il y avait ce problème que nous décrivons, les Américains soient convaincus de la nécessité d'intervenir.
Jean-François Huchet, comment a été perçue en Chine la mise au pas de Hong Kong, c'est-à-dire la fin, dans les faits, de la formule « un pays, deux systèmes » ?
Il faut bien voir que c'est les évolutions qu'on a à Hong Kong depuis, je dirais, qui se sont accélérées depuis la révolution des parapluies, sont perçues. D'abord, il y a assez peu d'informations qui filtrent, mais je crois que sur le continent, il y a toujours eu aussi une espèce de complexe de supériorité vis-à-vis de Hong Kong. Ce n'est pas pour reprendre les mots de Deng Xiaoping qui avaient été assez offensants sur Hong Kong, comme quoi, peu importe ce qu'il arrivera à Hong Kong, on continuera à faire des paris sur les chevaux et à jouer au mahjong. Mais c'est vrai qu'on avait vu aussi, avant 2014, avec le déferlement de touristes chinois à Hong Kong, des sortes de conflits aussi qui se rapportaient à une culture différente, une culture politique différente. Donc j'ai envie de vous dire que ça a été pris de manière assez passive, en fait. Même s'il y a eu quelques prises de position, mais de manière assez générale, il n'y a pas eu un mouvement de défense par rapport aux libertés qui existaient à Hong Kong. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le parti a décidé d'agir à un certain moment donné, en insistant aussi sur les désordres qui se passaient à Hong Kong, sur un certain nombre aussi de velléités de la part d'un certain nombre de jeunes à Hong Kong qui revendiquaient une indépendance du territoire aussi contre la mère patrie. Donc tout ça a été savamment aussi utilisé par le pouvoir à travers la propagande pour justifier une intervention très forte de la part du régime.
Dernière question brièvement à tous les trois. Est-ce qu'on aura moyen de savoir si Xi Jinping va sortir renforcé de ce 20e congrès du PC chinois ? Emmanuel ?
Ça me paraît évident. C'est toute la perversion d'un système communiste et dictatorial. C'est-à-dire que, effectivement, les crises renforcent le régime. Et à l'époque de Mao Tse-tung, on l'a vu par trois fois, mouvement des sans-fleurs, grand bond en avant, révolution culturelle, dont je pense qu'il sortira, sinon grandi, tout au moins renforcé.
Marc-Julienne ?
La surprise serait l'inverse, serait qu'il ne soit pas si, si fort. Là, je pense qu'il y aura un verrouillage total du pouvoir. Il aura absolument les mains libres. Il aura des proches à l'intégralité des postes stratégiques, le comité central derrière lui. Donc, je pense qu'il y a assez peu de surprises là-dessus ou l'inverse serait une surprise.
Jean-François Huchet ?
Le fait même que ce comité se tienne, déjà, prouve que tout a été réglé à l'avance et que Xi Jinping va ressortir effectivement renforcé de ce comité. Après, le risque, c'est effectivement le risque d'une diminution des contre-pouvoirs qui étaient constructifs à l'intérieur du parti et puis des risques éventuellement pour lui d'hubris où à un certain moment donné, plus personne n'ose le contester et qu'il se lance parce qu'il y aurait une crise économique, parce qu'il y aurait d'autres raisons qui le pousseraient à faire des choses dont on a parlé qui deviendraient irrationnelles pour la Chine.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Emmanuel Linco, sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS. Votre dernier livre, Chine et Terre d'Islam, un millénaire de géopolitique, est édité au PUF. Jean-François Huchet, économiste, président de l'INALCO. Vous avez publié en 2016 La crise environnementale en Chine aux presses de Sciences Po. Et puis Marc Julienne, chercheur responsable des activités Chine au Centre-Asie de l'IFRI. Vous signez dans le dernier numéro de politique étrangère, une analyse titrée « Guerre d'Ukraine, un embarras pour Pékin ». Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui m'a aidée à préparer Géopolitique. À bientôt et portez-vous bien.